Je me présente à ce colloque d'abord pour prononcer un remerciement à Roland Barthes d'avoir été dans le monde de la critique suédoise de ma jeunesse, un libérateur, propagateur d'un gai savoir, modèle d'une existence autre que les mornes alternatives de devenir un écrivain de métier ou érudit universitaire. J'ai entendu parler de Barthes pour la première fois vers 1970, quand je faisais mes études de littérature générale à l'Université de Stockholm. Trois livres traduits et publiés par Cave Force, une édition d'avant-garde spécialisée dans l'introduction des penseurs de gauche, ont marqué l'entrée de Roland Barthes en Suède. Les titres présentés étaient Les degrés zéro de l'écriture, paru dans sa version suédoise en 1966, Les essais critiques, sortis en 1967, et Les mythologies, publiées en 1969. Ces livres ont été accueillis comme l'expression d'une intellectualité avancée dont il n'y avait chez nous rien de comparable. Barthes relevait d'un phénomène qu'on résumait dans le mot « théorie ». Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la Suède d'après-guerre, régnait un climat intellectuel caractérisé par le pragmatisme et l'empirisme. Toute pensée spéculative était regardée avec méfiance. On parlait sérieusement de la mort des idéologies, un peu comme dans les années 90, on parlait de la fin de l'histoire. À croire l'idée reçue, la Suède était une société en train de s'imprégner définitivement de rationalité et de transparence. Sous l'inspiration de la philosophie anglo-saxonne, dite de « common sense », on avait tendance à dessiner tout énoncé employant des termes non fondés, du moins indirectement, sur des observations vérifiables comme dépourvues de sens, « nonsense ». La soi-disant philosophie continentale, c'est-à-dire toute pensée originaire de l'Allemagne, particulièrement des versions du hegelianisme ou de la phénoménologie, était considérée comme une sorte de duperie et bannie de l'université. Dans le manuel de l'histoire de la philosophie utilisé dans l'enseignement, écrit par un professeur influent de l'Université de Stockholm, le héros principal est David Hume, alors que les grands penseurs idéalistes allemands de la période après Kant seraient la cause d'un, je cite, « abaissement du niveau intellectuel dont la philosophie ne s'est jamais tout à fait rétablie ». On passait sous silence Heidegger, tenant ses écrits pour une mauvaise plaisanterie, ou pire, une sorte de salut nazi. Peirce était presque inconnu, de même que dans le champ esthétique, Roman Jakobson et le formalisme russe. Je ne poursuivrai ce catalogue des vaisseaux absents. Quand les nouvelles tendances dans les sciences humaines se firent connaître en Suède vers la fin des années 60, cela a produit un effet de choc. Dans les cercles de jeunes intellectuels, partout où l'on avait le courage de se déconsidérer auprès de ses professeurs, on voyait naître une activité fiévreuse visant à assembler ces matériaux hétérogènes et à se forger une vision du monde ou une stratégie de lutte. Les nouveautés philosophiques, rapidement importées à la vitesse d'une école par an, s'accordaient avec les idées politiques radicales où le jeune Marx occupait une place importante. On peut parler d'une révolution culturelle qui balaya nos universités à partir de 1968 et qui s'est vite établie dans les rédactions les plus importantes, au quotidien Dagens Nyheter, à la radio et aux revues intellectuelles. Cela avait pour résultat une transformation des mentalités dans la couche sociale cultivée. L'historien finlandais Matti Klinge a dit, presque sans blague, que la Suède est l'unique pays au monde où la révolution culturelle a réussi. Le mot d'ordre de nous autres étudiants dans les années 70, quand nous avons lutté pour la nouvelle pensée contre le soi-disant positivisme de nos professeurs, était justement théorie. Ce mot promettait la liberté de réfléchir sans contrainte sur la société et sur l'art, puisant dans l'ensemble de la philosophie européenne, de la linguistique, de la psychanalyse, de la dialectique, de la phénoménologie, bref, des outils prodigieux estampillés par nos professeurs comme non scientifiques. Quand Barthes a débarqué sur la terre scandinave gelée, c'était donc sous cet étendard curieux, la théorie. De quelle théorie précisément il était question ? Nous n'étions pas en mesure de le dire à ce stade. Nous avons trouvé dans ces essais un essor de pensée que jusqu'ici nous n'avions jamais rencontré chez nos critiques raseurs, banalement raisonnables. L'abondance de traits géniaux jointe à l'élégance de ses tournures nous donnait la sensation d'être des enfants devant un prestidigitateur virtuose. À la fin de la lecture, personne n'était capable de dire à quoi, au juste, il venait d'assister, seulement que c'était merveilleux. Mais quelle théorie donc ? Dans le champ des études littéraires, le dilemme a été résolu par un maître de conférence à l'université de Göteborg, qui en 1971 a publié une anthologie sous le titre « Forme et structure ». Un livre vite devenu célèbre où, pour la première fois, les lecteurs suédois ont pu lire des extraits des formalistes russes et de leurs successeurs. Le nom de la pensée nouvelle dont nous attendions notre salut était donc structuralisme, et Barthes faisait partie de l'équipe. Voilà la première phase de la réception de son œuvre en Suède, correspondant à la période 1966 à 1975. Barthes, le structuraliste. Durant cette phase, il apparaît comme le représentant d'une science en état de naissance, la science de texte. Il est placé dans une lignée partant du formalisme russe. Il figure comme un héritier de Shklovsky, Eichenbaum, Tynjanov, Jakobson, intégré dans une tradition à laquelle s'ajoutent des maîtres penseurs français comme Foucault, Lévi-Strauss, Lacan et Althusser. Le structuralisme se présentait comme un phénomène comparable au marxisme et à l'existentialisme, offrant une alternative à ses croyances au système intellectuel. L'éditeur de l'anthologie surmentionnée, Kurt Aspelin, a souligné l'importance de l'école pratique des hautes études, avant tout sa section pour la sociologie et la communication de masse. Un personnage principal ici est Roland Barthes, écrit Aspelin. Formé avec Marx et Saussure, Brecht, Sartre est le nouveau roman. Dans chaque nouvelle œuvre, il va s'essayer à un domaine nouveau. Il est fascinant de voir comment Barthes, poussé par son intérêt pour les différents niveaux d'expression et de signification des systèmes langagiers, combine les raisonnements de Romain Jakobson avec les thèses centrales de la glossématique et donc participe à l'élaboration générale d'une poétique ou d'une rhétorique, comme il préfère le dire, ayant pour base solide la linguistique. L'article de Barthes choisi par l'éditeur pour son anthologie est un mélange des éléments linguistiques avec un brin de théorie d'information intitulé « L'analyse rhétorique » rédigé en 1964, tiré d'un recueil collectif publié à Bruxelles en 1967, « Littérature et société, problèmes de méthodologie en sociologie de littérature ». Les catégories linguistiques et narratologiques introduites par Barthes dans ce texte semblent aujourd'hui peu sensationnelles. Mais en ce temps-là, elle était largement inconnue aux lecteurs suédois. L'anthologie forme et structure a vite gagné une popularité étendue et fut intégrée à l'enseignement de littérature dans les universités suédoises, déterminant l'image de Barthes au début des années 70. À la différence des autres maîtres penseurs de cette époque, il y avait pourtant dans l'écriture de Barthes une présence personnel incontestable. Non seulement une façon caractéristique de présenter les problèmes, mais la résonance inintimable d'un instrument où confluent la pensée et le désir. Barthes était reconnaissable à sa voix là où les autres s'identifiaient par leur doctrine. Avant tout, Il savait comment chercher ces mots-clés d'énergie et les faire briller d'un lustre plein de promesses. Des mots comme signe, écriture, connotation, code, etc. Les termes chez Barthes nous semblaient foncièrement différents des termes des savants ordinaires. N'étant pas, comme dans le conseil classique, le général sous lequel se range le particulier, non. Il était des êtres vivants. Il bondissait de la page comme les diablotins dans les récits sur le petit sachet surnommé Cinabre de Hoffmann. Il menait une vie à eux. Souvent peu rompus aux disciplines auxquelles Barthes empruntait cet arme, nous en étions réduits à deviner leur signification de manière intuitive. Il avait l'art de converger, venant des différents domaines de la connaissance humaine, convoqué afin de former une combinatoire universelle à l'aide de laquelle tout phénomène culturel pourrait être mis en rapport avec tout autre et élucidé. Une sorte d'ars magna où l'art et la critique se trouvaient réunis comme la religion et la philosophie dans l'œuvre légendaire de Raymond Lull. Ce que nous n'avons pas compris au début des années 70, c'est que l'activité critique de Barthes était déjà en train de subir une transformation qui allait aboutir à une œuvre tout autre que celle de ce livre à tendance scientiste avec ses alliages de marxisme, de linguistique et de psychanalyse. Ce qui nous a rendu conscients de cette transformation, c'était l'apparition de S par Z dans la traduction suédoise publiée par Cavefors en 1975. En feuilletant ce livre, on s'est immédiatement rendu compte que son auteur avait délaissé le projet structuraliste et congédié l'idée des modèles généraux pour la description de textes littéraires. Dans l'entendement de ce Barthes 2.0, tout texte suit son propre modèle. Et non moins important, la science de la littérature, c'est la littérature. Notre lecture de S par Z coïncidait de manière opportune avec la découverte de l'herméneutique allemande, Hans-Georg Gadamer et ses disciples, que nous avons présenté au lecteur suédois avec une anthologie en 1977. De cette façon, on a vu se mettre en place ce qu'on peut appeler la deuxième phase de réception de Barthes en Suède, culminant au début des années 80. Le Roland Barthes, dont nous avons fait l'objet de notre admiration à ce moment, c'était l'explorateur de la sensualité de la lecture, le prophète de la paralittérature et le maître du fragment. Il s'agissait toujours d'une œuvre de réflexion conceptualisante, mais transformée en une activité ludique et ne cherchant plus à établir une métalangue. L'œuvre décisive de cette deuxième phase d'influence de Barthes auprès du cercle d'avant-garde à Stockholm a été Le plaisir du texte. Peut-être pas un de ses meilleurs livres, mais cette improvisation contrôlée, cette confession espiègle d'une centaine de pages nous a montré une issue de la nécessité de mesurer les phénomènes esthétiques à l'aune de leurs effets politiques. Les interminables discussions dans lesquelles nous avons tenté de clarifier le sens du mot « texte » dans ce livre et aussi dans les articles comme « De l'œuvre au texte » dans « Revue d'esthétique » et « Texte, théorie due » dans l'Encyclopédia Universalis n'ont pas produit de résultats tangibles, ce qui a plutôt augmenté son applicabilité. Nous l'avons lancé dans le débat sur la littérature de notre génération avec un effet dévastateur. Ce conseil barthien a servi d'étincelle qui déclencha la bataille du postmodernisme en 1982, une bataille qui s'est poursuivie plusieurs années, scellant la fin de l'hégémonie culturelle de la gauche, disons avant les mots, la chute du mur dans nos têtes. Une phrase mémorable du plaisir du texte dit: le texte est, devrait être, cette personne désinvolte qui montre son derrière au père politique. Et voilà pour nous l'astuce de ce livre. C'était le signal du soulèvement contre les systèmes déductifs, contre le matérialisme historique et contre un surmoi théorique qui avait tout fixé à l'avance sans se soucier de regarder, contre toute lignée dite générale, contre le dualisme, contre le conseil comme tel. Au profit de l'individuel, de l'accidentel, du vécu, de l'anecdote, de la trouvaille. L'idiographie dont rêvait Barthes. La science du cas unique. Pourtant, ce n'est pas un soulèvement à l'instar de la révolution culturelle de 68, car Barthes nous avait appris que l'anti, l'opposition ouverte, va rater le but, happé par la symétrie du conflit, où les deux parties se reflètent mutuellement et se ressemblent de plus en plus. Il se tient au dehors, préférant une stratégie qui ne vise pas la destruction, mais l'excès. S'il faut situer cet épisode dans le temps, disons que le plaisir de texte a fourni des munitions à une éditoriale de la revue Esthétique Crise en mars 1980, la même revue dans laquelle devait paraître 6 mois plus tard le premier texte traduit en suédois de Jacques Derrida. En apparence, des événements de peu d'importance si l'on regarde le tirage limité de cette revue, dont j'étais un des rédacteurs, mais en réalité des impulsions qui ont déclenché un changement du climat dans le débat culturel suédois. Ce travail s'est achevé quelques années plus tard avec un numéro spécial sur Barthes du magazine littéraire En Pointe, le BLM, paru en janvier 1983. Ce numéro constitue un portrait en pied, tenant compte de toutes les phases de son évolution comme penseur, critique et écrivain. Un mot-clé qui a particulièrement irrité nos adversaires n'est au fond qu'un préfixe, para. En adoptant l'idée de la paralittérature, nous nous vîmes accusés de vouloir lancer un genre nouveau, tandis qu'une autre intention était de, au contraire, de neutraliser le genre. L'idée d'un mode d'écriture qui joindrait la réflexion intellectuelle à des éléments subjectifs, peut-être même autobiographiques, exerçait sur nous une attraction immense. Cet hybride, qui semblait se présenter dans les livres de fragments de Barthes, fut pour nous l'objet d'une admiration presque sans borne. La question n'était pas simplement comment écrire, mais comment vivre. Nous savions très peu sur l'homme, Roland Barthes, mais dans notre imagination, il existait un intellectuel libre, tel un Diderot ou un Baudelaire, sollicité par les rédactions, mais ne dépendant pas d'elles, impliqué dans la recherche et l'enseignement, mais sans s'enfermer dans une carrière. Son statut d'outsider, d'homme en dehors du système, sa révolte contre l'esprit de sérieux, son échec universitaire, le traitement qu'il avait à supporter de la part des exégètes pour son livre sur Racine et les autres études littéraires, les attaques de l'ordre établi contre sa prétendue charlatanerie, tout cela parlait à son avantage. Dans nos yeux, l'élection au Collège de France a confirmé cette image d'un individu qui a réussi à échapper, à éviter de passer sous le joug. Notre plus cher espoir était de l'imiter. Nous avons considéré comme un acte de libération son constat du décès de l'auteur. La nécessité de faire monumentaliser grâce au marketing, de se soumettre aux lois du marché pour gagner son pain, nous semblait être une des perspectives des plus dégoûtantes pour un écrivain. Évidemment, l'attention donnée à la personnalité de l'auteur au détriment de l'œuvre allait s'accroître avec l'importance grandissante de la télévision et des magazines littéraires télévisés que nous détestions. On pressentait que ce développement aboutirait à un état de choses où la présence médiatique de l'auteur serait déterminante pour le sort de son livre. Pour exprimer notre attitude, nous avons publié un numéro de la revue Crise, en 1981, dans lequel toute signature était supprimée et les essais, les articles présentés sans nom d'auteur. Le titre de mon exposé mentionne le culte de Barthes à Stockholm en 1980. Ce n'est guère une exagération. Comme preuve documentaire, je citerai une épitaphe composée au cours d'une fête des jeunes écrivains et critiques dans un appartement du quartier bohème de Stockholm. Le même jour, nous avions reçu l'annonce de la mort inattendue de Roland Barthes à Paris. Le sentiment général était de stupéfaction. Quelques-uns des invités, dont les membres de la rédaction de Crise, ont improvisé, debout dans la cuisine, quatre lignes dans une langue qui n'était pas la nôtre, un français semi-inventé, fait de calembours, un petit poème dans lequel nous nous insurgions contre la mort qui venait d'enlever ce visage paternel, une épitaphe proclamant en même temps l'avenir de son œuvre, s'ouvrant à la lecture comme une tombe au moment de la résurrection. Et je cite cette petite épitaphe de quatre lignes. Le cri de l'empire des signes s'écrit dans les traces inachevées du visage. Au festin de père s'éteint le jeu d'artifex. Le tombeau s'ouvre à jamais. Le signe de Mallarmé prend ici son envol du titre du livre japonais de Barthes, et plus loin, on voit Don Juan tenir compagnie à Jacques Lacan. Jouer avec le mot latin pour créateur, artifex, sert à évoquer le feu d'artifice qu'est l'écriture de Barthes, son impression de luxe éblouissant. Mais le mot essentiel est l'ouverture du livre de l'œuvre, maintenant accessible sans réserve, les interprétations ne pouvant plus être démenties par l'auteur. Ce qui a surtout caractérisé la deuxième phase de réception de Barthes en Suède, c'est moins son action sur la critique que son influence sur nos artistes, et non seulement sur les écrivains et les poètes, mais aussi sur les peintres, les musiciens, les chorégraphes. Parmi les artistes les plus influencés par Barthes, je voudrais citer Ola Billgren, figure principale de la peinture suédoise, à partir des années 60 jusqu'à sa mort en 2000, et la chorégraphe Margareta Åsberg, emblématique de la danse postmoderne en Suède. Je dirais que l'influence de Barthes a réveillé chez Billgren le désir d'écrire sur son art sur un mode attaché, pratiquant une analyse poussée du fonctionnement des éléments de peinture. À Åsberg, les écrits de Barthes ont donné l'impulsion de créer une danse à dimension verbale, comprenant non seulement le mouvement, le décor et la musique, mais aussi le texte. Dans son œuvre novatrice, Fragment d'un cube de 1981, les danseurs récitent des textes tirés des essais critiques de Barthes, tout en exécutant leur partie chorégraphique. Pour être honnête, il faut reconnaître que la présence de Barthes dans notre monde littéraire s'est éclipsée un peu après avoir connu une apogée au milieu des années 80. À l'esthéticisme libertaire de cette décennie a succédé le revanchisme social des années 90, empreint de la doctrine de Pierre Bourdieu, dont les écrits sur le capital culturel ont connu un succès remarquable en Suède. Barthes, dans ce contexte, a été perçu comme une âme pas trop riche en culture, et pour cela tacitement rejeté par une grande partie de la nouvelle génération, à l'exception de son La Chambre éclair, qui garde jusqu'à nos jours une position de traité classique sur la phénoménologie de la photo. Pourtant, peut-être le temps est venu de signaler le retour de Barthes. Cet automne, on a vu paraître deux titres en réédition, publiés par deux éditeurs d'avant-garde. La maison d'édition moderniste a sorti l'ancienne traduction des Fragments d'un discours amoureux et l'édition Phaéton, une nouvelle traduction du plaisir du texte. Il est difficile de pronostiquer le sort de ces livres dans les biotopes culturels existants, tellement différents de l'époque qui a vu le triomphe de son auteur. La prééminence de la linguistique semble être un chapitre terminé dans la pensée occidentale. L'autorité des grandes figures de la critique s'est sensiblement réduite dans le monde numérique avec ses réseaux de communication horizontaux et géographiquement illimités. WikiLeaks est un détrompeur plus puissant que la philosophie. Personne ne débarque plus sur notre sol septentrional en brandissant l'étendard impérieux de la théorie. Et où en est l'ennemi de nos jours? La culture classique ne sert plus de citadelle, assurant la domination des élites. L'anarchisme subtil de Barthes se trouverait aujourd'hui face à une société marquée par une fragmentation et un relativisme qui rendrait la résistance à la doxa fort difficile, déjà par manque d'une doxa repérable. Toutefois, le ton unique de Barthes, sa manière vive, douce, non agressive de parler, sérieuse, sans prétention, prête à expliquer sans vouloir inculquer, cette voix inimitable n'a pas vieilli. Elle n'a jamais créé une école, et c'est pourquoi nous allons retourner à ses écrits pour l'écouter et pour participer à son plaisir.